On m'a refusé trois fois un rillette cornichon.
Normalement, c'est puissant, ça arrache. Oui. Et là, ça se boit très très bien.
Europe 1.
Régalez-vous, hein. J'ai amené de la rillette aussi, hein. Il y a de la rillette.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Bien le bonjour les amis, heureux de vous retrouver. Nous sommes en direct du salon du Made in France, porte de Versailles à Paris. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Alors nous allons partager le goût de produits 100% français, de la bière, des champignons, du piment et même des cornichons qui poussent en France. Oui, nos agriculteurs s'y remettent. Bien manger, tiens, justement avec les paysans d'aujourd'hui, c'est le sujet de la revue du journaliste réalisateur Édouard Bergeon. Nous allons parler avec lui du lien qui unit les agriculteurs et les consommateurs. Jean-Luc Petit-Renaud va nous emmener au marché, un lieu essentiel qui fait la part belle au Made in France, vous pensez bien. Et je vous les présente, ils sont là, voici mes bons vivants du jour. De la bière au vin, c'est une belle ambassadrice du Made in France, Miss Glouglou pour les intimes, c'est Ophélie Neyman. Bonjour Ophélie.
Bonjour Laurent.
Des champignons aux notes truffées du Bordeaux, il célèbre le Made in France à sa façon, c'est Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour Ophélie, bonjour Laurent
et bonjour
vive
Olivier.
La France. Vive la France, absolument, c'est le moment de le dire. Et nous allons partager le plat du jour avec une aventurière du goût que vous connaissez et que vous appréciez, chers auditeurs. Julie Andrieux sera des nôtres. Ah, un petit mot, tiens, quand même, sur le plat du jour qui sera cuisiné par un chef lyonnais, Christian Tête-Doie, sera avec nous. Il va cuisiner une brioche avec une sauce aux champignons. Ce sera tout à l'heure avec Julie Andrieux. Question rituelle du samedi. Posez-vous la question à la maison, en voiture, où vous soyez. Quel est votre goût de la semaine? Je vous pose la question, Ophélie.
Alors, je vais laisser les sujets graves à Olivier. Moi, je vais rester sur une note légère avec une tête de veau coupé façon carpaccio et une sauce gribiche que j'ai goûté au restaurant Parcelle dans le 3e arrondissement. Et c'est une très belle manière de redécouvrir la tête de veau avec un côté un peu plus délicat parce que c'est tranché tellement fin, ça fond sur la langue. C'est merveilleux.
Et c'est une belle façon de rendre hommage à nos artisans tripiers parce que le mois de novembre, c'est le mois des produits tripiers. Donc foie de veau, rognon, riz de veau, c'est le moment.
J'ai également mangé de la langue et de la joue.
Olivier, votre goût de la semaine, c'est un hommage.
Oui, c'est un goût un peu triste. C'est le goût de la disparition d'un de nos plus grands vignerons, disparu hier un peu prématurément. Éloi Durbach avait fondé le domaine de Trévalon il y a une quarantaine d'années. C'était un vigneron mondialement connu. Il s'était installé dans les Alpes où il avait été l'un des premiers vignerons « rebelles » entre guillemets à sortir des codes de l'appellation d'origine contrôlé en plantant des cépages qui n'étaient pas reconnus comme étant des cépages locaux. Et son assemblage Syrah Cabernet Sauvignon dans ses bouteilles est un vin absolument merveilleux. Et j'ai beaucoup de tristesse ce matin avec le départ de ce très grand vigneron. Heureusement, le domaine se poursuit grâce à sa famille.
On pense à lui et à sa famille, bien sûr. Ben, mon goût de la semaine va prolonger le vôtre. C'est un vin de France, le Mazel, cuvée l'Armande, un pur Syrah vinifié par Gérard Oustrick. Ça coûte une douzaine d'euros. C'est un vin nature avec de la matière. Pur Syrah, c'est du monocépage, c'est agréable ça. Et ça marche, j'ai fait une raclette avec pour vous dire, et ben ça marchait bien.
Vous nous en avez pas apporté.
Ah ben non, j'ai tout bu, vous pensez bien. Allez, c'est l'heure d'aller au marché, direction les allées du salon du Made in France. Nous y sommes en direct jusqu'à 12h30. Alors entre deux dégustations Made in France, Julien Amat vous a tendu le micro. Quel est votre goût du salon? Les auditeurs ont la parole.
Le goût de mon salon, c'est le Roquefort. On pense connaître et puis en fait on connaît pas. Et il y a un maître affineur là qui est sur place et qui explique très bien.
Qu'est-ce que vous venez de manger là, monsieur?
Eh bien, du saucisson de bœuf. Je découvre. Hein. Ah ben, ça me plaît beaucoup. En plus, c'est maigre, donc c'est un avantage.
On a un élevage de bœuf Angus à Soissons. Tu veux goûter?
Allez. Ça change du cochon.
On a goûté ce qui ressemblait à un bonbon, qui est un gâteau en forme de bonbon. Le Queen Amman, de fil en aiguille, je trouve qu'on goûte pas mal de choses. On va songer à se désaltérer maintenant.
Le goût du salon, moi, ça a été la crème brûlée avec la société Les Cinq Sens, qui était excellente.
Et vous, le goût de votre salon, c'est quoi?
Le goût de dire que c'est rassurant de voir qu'il y a encore des bons artisans français qui montraient des choses.
Et comment qu'il y en a encore des artisans français qui montrent des choses? On pense à tous les artisans qui ne sont pas au salon et qui sont dans leur boutique partout en France. C'est pas mal, dites donc, ce saucisson de bœuf, on vient de le déguster là.
Oui, c'est vrai que ça a beaucoup de goût, c'est très différent en termes de texture et de goût qu'un saucisson de cochon traditionnel. Il y a une vraie tendance aujourd'hui à faire de la charcuterie de bœuf, le saucisson en est un exemple, mais on trouve aussi des jambons de bœuf, c'est une belle alternative. C'est beaucoup plus maigre que du cochon. Et en termes de goût, Félix, c'est délicieux.
Ah oui, c'est très très bon. Moi, je pensais que ça tendrait dans la viande des grisons, mais non, ça a vraiment un goût
c'est
différent.
C'est moins sec.
Oui, exactement.
Oui, c'est vrai qu'au niveau de la transformation du bœuf en viande séchée, on connaît la viande des grisons, mais les saucissons en font partie maintenant.
Oui, je vous avoue, la viande des grisons, je trouve ça un peu sec. C'est bon, mais c'est...
Ça peut être un petit peu
sec. Non, celui-ci est très moelleux, c'est vraiment un joli saucisson.
Qu'on votre raclette pour aller avec.
Oui, ça marche bien avec la raclette. Et puis, une petite salade d'endives pour le végétal, pour donner bonne conscience quand même.
Et puis là, je goûte un comté 18 mois, et c'est de la race Montbéliard. Il ne faut pas oublier que derrière les fromages, il y a des vaches. Il faut savoir
exactement
quelle vache a fait ce fromage.
Belle race Montbéliard. Qu'est-ce qu'on boit, tiens, avec ça? Qui pourrait aller avec les deux? Ah, alors là, je vous pose une colle, tiens, Miss Glouglou.
Non, moi je prendrais peut-être un petit Cabernet Franc de Loire, bien frais comme
un jour de soif de chez Gauthier, par exemple, tout croquant, tout juteux. Et c'est vrai que ça fait l'apéro, là, entre le saucisson. Moi, les petits morceaux de fromage comme ça, j'aime bien ça, l'apéro aussi.
Oui,
je réserve pas forcément ça à la fin du repas, mais juste pour l'apéro. En plus, il a une belle texture, il n'est pas sec non plus, ce qui est important dans les comtés. Et il commence à avoir ce petit point de maturité que j'aime bien.
Et ben voilà, on ouvre les hostilités. Si vous venez aujourd'hui au Salon du Made in France, ben il y a plein de choses. On y était il y a 2 ans. Il faut dire qu'il est plus grand qu'il y a 2 ans. Il s'est étendu et il y a un rayon, si je puis dire, gastronomie beaucoup plus large qu'il y a 2 ans. Effectivement, on trouve des bocaux, on trouve du chocolat, des cornichons. On va en parler dans un instant. Ben voilà, je vous en dis pas plus. On va croquer le cornichon français.
Remplir les verres aussi.
Après la pause. Et on a de quoi remplir les verres, exactement. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. Bon samedi sur Europe 1. Tout de suite.
Europe 1, 11h, 12h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Des cornichons, de la moutarde, du pain, du beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons.
Vert et croquant, acide et fruité, on sort le cornichon du bocal ce samedi matin. Il fait partie des condiments préférés des Français. Alors sa culture avait presque disparu de nos champs, mais cocorico, le cornichon made in France, fait son retour. On va faire le tour du pot avec Ophélie et Olivier. On va commencer par les travaux pratiques. Vous avez chacun une assiette devant vous. Une assiette made in France, tiens, je le précise, de la marque L'Ogre La Fabrique. Tiens, une belle assiette en porcelaine. Et on vous a mis des cornichons, Olivier et Ophélie. Et vous allez me dire quelles sont les différences, tiens, entre ces deux cornichons.
Bah déjà, au niveau de la texture, il y en a un qui est légèrement plus souple ou plus mou, hein,
c'est ça,
dépend du vocabulaire. Et il y en a un qui a plus de petits piquants. Alors moi, je l'aime bien celui-ci parce qu'il est plus rugueux déjà à toucher. Donc je sais que sur la langue, ça va gratter un peu, j'aime bien.
On entend, mais celui de gauche, il croque. Hein.
C'est ça, il y en a... Oui, mais les deux sont croquants, je pense.
Très croquant, vinaigré, bien.
Oui, pas mal. Et l'autre, la vérité, c'est qu'il y en a un qui est français et pas l'autre. On va voir si vous le reconnaissez, tiens.
Ah ben...
Il a une baguette sous le bras.
Je pense que celui qui est français,
cornichon français.
C'est celui de gauche.
Oui.
Il est plus fin.
Avec de l'estragon par-dessus ?
Ouais.
C'est celui-là, bravo. C'est un cornichon de la maison Marc, que vous connaissez d'ailleurs, Olivier, qui est en Bourgogne.
En Bourgogne, et qui est une maison admirable, dont on aura l'occasion de parler, je pense, parce qu'ils défendent l'idée du vrai cornichon français, pas celui qui nous vient de l'autre bout du monde.
Et d'ailleurs, quand on croque dedans, on sent bien, il y a comme à l'intérieur, on sent qu'il y a différentes textures, en fait. C'est croquant, puis fondant, puis encore un petit peu.
C'est ça, il y a du contraste.
Ouais, exactement.
Et pour reprendre un vocabulaire de vin, il y a beaucoup plus de longueur en bouche.
C'est ça, il est durable.
Incroyable comme on a cette complexité, cette longueur en bouche.
Et la maison Marc est présente au salon du Made in France, ici à Paris, porte de Versailles. Alors la majorité des cornichons que l'on mange aujourd'hui en France, eh bien, ne vient pas de France. Ça, c'est une certitude, on le sait, mais les choses sont peut-être en train de changer.
Mais les chiffres sont terribles. Aujourd'hui, plus de 80% des cornichons qui sont consommés chez nous sont originaires d'Inde. Alors, ce n'est pas complètement incongru parce que l'Inde est le pays d'origine du cornichon. Mais enfin bon, ils viennent quand même de très très loin. Et puis le reste, il y a les pays de l'Europe de l'Est aussi et l'Asie en général. Il faut savoir que seulement 2% des cornichons que nous consommons sont des vrais cornichons made in France.
C'est ça, ils nous arrivent en bateau, hein. Ils mettent 2 mois pour arriver en bateau, ils sont plongés dans le vinaigre en Inde et ce sont les bocaux qui voyagent. Mais le plus terrible, c'est que dans la plupart des cas, ce n'est pas marqué sur les pots. On n'en sait rien.
C'est
quand
ça.
On achète des cornichons, ce n'est absolument pas marqué d'où viennent les cornichons. Donc, on ne sait pas qu'on ne mange pas un cornichon français.
Surtout que ce sont souvent des marques françaises.
Exactement. Alors, réagissez au 3921 sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. Est-ce que vous aimez les cornichons? Est-ce que vous avez envie de manger du cornichon français ou est-ce que ça vous est égal? Ça nous intéresse. Et c'est vrai qu'une grosse partie des cornichons poussaient en France encore jusqu'au début des années 2000. Hein.
Et oui, à cette époque, en Bourgogne, il y avait une cinquantaine de producteurs. Et puis en 2004, Maille décide de fermer son usine de Lyon pour aller chercher les cornichons là où ils poussaient à l'origine, hein, en Inde. Et voilà, et petit à petit, ça a déserté.
Ben oui, on a perdu cette fameuse culture des cornichons, mais il y a aussi des explications évidemment économiques. De un, les cornichons demandent une certaine main-d'œuvre pour être ramassés, ils poussent tout au ras du sol.
Et il faut se courber. Hein.
Il faut se courber. Ouais. De deux, le climat de l'Inde permet de faire 3 récoltes de cornichons par an, alors qu'on n'en fait qu'une seule en France. Et donc, bien évidemment, même s'il vient de l'autre bout de la planète et qu'il prend le bateau, au final, il revient moins cher. Il y a de grandes raisons économiques à tout ça.
Alors, je le disais, cocorico, il y a des agriculteurs qui ont décidé de relancer la culture du cornichon français. Ils sont seulement une 30aine à en produire. On les appelle les cornichons. J'étais sûr que j'allais bugger. Les cornichonneurs. Voilà, les cornichonneurs. Et c'est vrai que cette année, la météo ne leur a pas facilité le travail. Ils sont nombreux à avoir perdu une grande partie de leur récolte en raison de la pluie et du mildiou, comme d'autres récoltes. Donc, on pense à eux. Et certains ont réussi à récolter que la moitié de leur production,
Ophélie. Oui, c'est une culture pas facile, hein, le cornichon. La plante est fragile, mais elle ne demande pas beaucoup d'eau. Alors ça, c'est quand même un avantage. Mais effectivement, quand il y a beaucoup d'eau, quand la météo n'est pas bonne et qu'il y a du mildiou, hein, cette fameuse petite parasite qui va faire moisir... Et bien, comme Sébastien Assois de la ferme du Bartus, on récolte 500 pots au lieu des 1500 qu'il produit normalement chaque année.
Et là, on a une belle assiette de cornichons encore. Donc, il y a ceux de la maison Marc, il y a les cornichons Jardin d'Orante que vous trouverez en grande distribution sous la marque Redzel. Il y a Anatra qui est le cornichon du Pays Ami. Le Pays Ami, c'est la Corse. C'est un cornichon corse qui est là. Tiens, on va le goûter, le cornichon corse. Alors, t'es où toi?
Ah, le Pays Ami,
il est là.
Il manque la charcuterie avec. Hein.
Oui, c'est vrai, la charcuterie corse d'ailleurs.
Ah, mais il a un goût très différent.
Alors, dans ces cornichons français...
Un peu plus poivré.
Oui.
Il y a un côté poivre blanc dans
ce cornichon. Oui, exactement. Et bien vinaigré aussi. Hein. Oui. Il faut savoir qu'il n'y a pas d'oignons dans les pots. Parce que c'est vrai que les oignons servent aussi à prendre de la place dans le pot. Et comme ça, on met moins de cornichons.
C'est de l'arnaque.
Et c'est un petit peu de l'arnaque. Donc voilà, ça, c'est du cornichon français où il n'y a que du cornichon dans le pot. On les aime petits hein, aussi, les cornichons français. Petit calibre, extra fin, croquant. Comment vous les mettez en cuisine, tiens, vous, Olivier?
Alors, moi, je suis un gros mangeur de cornichons. Je pourrais vider la moitié d'un pot de cornichons, rien que comme ça, à l'apéro. J'adore ça. Après, couper en petits morceaux dans un tartare de viande, pour moi, c'est totalement indispensable. Les sauces à base de cornichons.
Une gribiche.
Une belle gribiche,
une belle gribiche avec délicieux. Des œufs durs.
Oui, oui.
Et puis des capres et des cornichons et du persil. Voilà, exactement. Pour aller avec la tête de veau dont vous parliez tout à l'heure, Ophélie, c'est magnifique, ça.
Moi, je ne conçois pas un sandwich sans cornichons. Hein.
C'est vrai.
Que je mette de la terrine, du pâté, du jambon, n'importe quoi, même du fromage. Le cornichon, ça apporte cette petite pointe de croquant et d'acidité qui est toujours délicieuse en sandwich.
Et c'est vrai que vous le disiez, contrairement à certaines autres cultures, je pense aux États-Unis par exemple, où ils mangent des gros cornichons très aigres doux, notamment qu'ils mettent dans leur hamburger. Non, je ne suis pas totalement fan d'ailleurs. Moi, je préfère ces petits cornichons nerveux.
Oui, ils sont vifs, hein. Ouais. Il y a du peps.
Oui, mais t'es radical. Moi, j'aime bien les deux. Et d'ailleurs, ce qu'on goûte là, on a quand même les cornichons de chez Hugo Bro qui sont bio et c'est aigre doux. Et moi, j'aime bien aussi, quand je fais des petits burgers maison, on prend des aigres doux, des gros comme ça à la russe.
Alors, je vous invite à goûter quelque chose que personnellement, je n'ai jamais goûté. C'est un velouté de cornichons. C'est la maison Marc, aussi installée en Bourgogne et qui est ici au Salon du Made in France, qui fait ça. Velouté de cornichons, ça se sert tiède. C'est du cornichon cru qui a été cuisiné avec de la pomme de terre et avec de l'oignon. Alors, goûtons.
Alors, c'est très végétal, évidemment. On sent la pomme de terre quand même, il faut
c'est sympa, moi j'aime bien, ouais.
C'est très sympa, c'est très frais.
C'est assez doux, hein.
Ouais. Ça change, ouais. C'est végétal, voilà, il y a cette note herbacée aussi, effectivement, du cornichon. Et là aussi, il y a de la longueur en bouche. Hein.
Honnêtement, à l'aveugle, c'est introuvable. Hein.
C'est ce que j'allais dire, c'est compliqué. On pourrait penser courgette, mais c'est une courgette qui a du tempérament.
C'est pas tout à fait la même chose.
C'est ça, c'est le cornichon.
Après, bon, il y a la pomme de terre, je pense, qui amène aussi le liant et la texture dans cette soupe. C'est délicieux.
Essayez à la maison. Alors, c'est plus la saison des cornichons, mais quand ce sera la saison des cornichons, velouté de cornichons, on peut le servir tiède comme ça en été, c'est pas mal ça. Allez, ne bougez pas, on vous emmène de la fourche à la fourchette avec notre invité, il arrive, le journaliste réalisateur Édouard Bergeon. Vous avez probablement vu son magnifique film Au nom de la terre. Eh bien, il est avec nous, il vient de sortir une revue qui nous invite à bien manger avec les paysans d'aujourd'hui. Ça s'appelle Cultivons-nous, sa revue. Et bien, c'est ce qu'on va faire juste après la pause. On revient en direct du Salon du Made in France. A tout de suite.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Pas d'artisans du goût sans paysans, bien entendu. Alors, on profite de notre venue au Salon du Made in France en direct ce samedi matin pour réfléchir au lien qui unit les agriculteurs et les consommateurs. Nous avons invité Édouard Bergeon, vous le connaissez, c'est le réalisateur du film Au nom de la terre, cofondateur de Cultivons-nous TV, et puis les restaurateurs également, donc il sait de quoi il parle. Il parcourt le monde paysan au quotidien et il est avec nous ce matin. Bonjour Édouard Bergeon.
Bonjour Laurent.
bienvenue.
Merci.
Alors, vous venez de sortir un livre, Cultivons-nous. Un livre, une revue, on ne sait pas trop comment dire, c'est ce qu'on appelle aussi un MOOC. Hein.
Ouais, c'est un OVNI en fait.
Mais c'est un bel OVNI.
C'est un livre original avec du contenu inédit, avec des œuvres originales, des illustrations. Il y a de la BD dedans avec un auteur comme Enzo. Il y a des portfolios. On suit par exemple un éleveur dans le Puy-de-Dôme sur 16 ans. Alors, ce n'est pas moi qui l'ai initié ce portfolio, mais on voit pendant 16 ans la difficulté et la beauté d'être éleveur.
On va en parler tout à l'heure, vous l'avez suivi pendant 16 ans. C'est magnifique, il y a des recettes également.
C'est un livre, ouais.
Il y a des séries de portraits de femmes et d'hommes qui font évoluer le monde paysan. Il y a des producteurs, des éleveurs, des maraîchers, des artisans, des chefs, des restaurateurs. C'est une vraie balade, hein, de la fourche à la fourchette. C'est un témoignage pour mieux connaître les paysans d'aujourd'hui.
Oui, pour relier vraiment le champ à la table. Vous le voyez sur la couverture, le champ est la table avec tous les bons vivants qu'il y a autour.
Bah c'est nous, voilà, ça nous parle. Du bio à l'agriculture conventionnelle, vous montrez le monde paysan tel qu'il existe, avec des modèles agricoles qu'on veut souvent opposer.
Oui, mais non, mais en fait, il ne faut pas opposer les modèles agricoles, tout coexiste. Et heureusement, en fait, on a besoin du bio, on a besoin des circuits courts, on a besoin aussi de l'agriculture qu'on dit en France industrielle. Mais il ne faut pas oublier qu'elle reste familiale en France, qu'on a des fermes avec des familles dessus. On est loin de l'Allemagne ou des Pays-Bas. Et ces beaux paysages qui font qu'on est le premier pays touristique du monde, c'est qu'il y a des façonneurs de paysages que sont les paysans.
Et oui, Marc Dufumier, qui est un ingénieur agronome, dit souvent qu'il faudrait rétribuer les paysans pour le bien qu'ils font à notre environnement et à cette diversité des paysages et à l'entretien des paysages.
Je vous parlais du lien entre les Français et leurs paysans. C'est un lien un peu schizophrène quand même. C'est d'un côté, on les adore, on trouve ça fantastique d'avoir ces paysans, ces fermes. Comme vous le disiez, ils façonnent notre paysage et ils sont indispensables. Et puis d'un autre côté, eh ben, on a l'impression que c'est des criminels, des pollueurs. Moi, j'ai plein d'anecdotes aujourd'hui, notamment de vignerons qui sont en bio, qui sortent le tracteur pour aller traiter en bio et qui se font caillasser la cabine par des gens qui pensent qu'ils sont en train de les empoisonner. On est schizophrène.
Et puis même qu'ils soient en bio ou pas, à un moment donné, on ne doit pas agresser des agriculteurs. En fait, au-delà de l'agribashing, c'est ça aussi. C'est des agriculteurs qui se font vraiment agresser de plus en plus ou taguer leurs fermes par des slogans vraiment nazis.
Oui, vous en parlez dans le livre. Hein.
Vous imaginez le ressentiment qu'il peut y avoir. Donc, il y a des solutions. Communiquer, expliquer. Toujours, encore, et c'est ce que il y a de beaux portraits dans le livre d'agriculteurs et d'agricultrices qui racontent tout ça.
Ophélie.
On aime les cartes postales, hein. C'est vrai qu'on aime imaginer la ferme à l'ancienne en polyculture, et puis quand les produits sont valorisés, on est extrêmement chauvin. Je reprends le vin, personne ne connaît les vins italiens qui sont pourtant merveilleux. Non, on est fiers de nos vins français. Mais dès que ce sont des produits qui ne sont pas valorisables, comme les carottes, enfin où on ne peut pas monter les prix ou les mettre en avant sur un podium, alors on devient très dur parce que tout d'un coup, ça casse l'image de carte postale, tout d'un coup on a pu cette image-là, on n'imagine pas que derrière il y a une économie, il y a des gens qui ont du mal à en vivre.
Et vous avez raison, on oublie parfois qu'il faut acheter les choses au juste prix, les ingrédients, les produits de saison au juste prix. Ça nous intéresse, hein, amis auditeurs, vous qui nous écoutez, là, quel rapport entretenez-vous avec nos agriculteurs? Qu'attendez-vous d'eux? Êtes-vous prêt à changer vos habitudes pour acheter plus souvent à la ferme? Réagissez au 3921 et sur les réseaux sociaux aussi, hashtag Europe 1. On parlait dans ce livre Cultivons-nous, Édouard Bergeon, d'un très beau portrait de Mathieu qui est éleveur de charolaises, et c'est un récit en photo sur 16 ans, et il s'en est passé des choses dans sa vie en 16 ans.
On voit sa vie évoluer, on voit la famille s'agrandir, on voit sa transformation, il va vers le bio justement, on voit aussi la sécheresse, on voit la neige, on le voit en train de planter une haie, on le voit avec ses amis, on voit qu'il y a de la solidarité, mais on voit aussi beaucoup de solitude, on voit son corps qui change, qui maigrit comme l'herbe disparaît avec la sécheresse, on le voit vieillir plus vite que...
7 jours sur 7, il travaille.
7 jours sur 7, et on voit aussi la beauté de ses paysages et sa passion, et il fait vivre la ruralité aussi, il est élu au conseil municipal, et ce récit en 30 photos, il y en a beaucoup plus dans le travail de Pablo Chinière, cette série résume à elle seule ce qu'est le Cultivons-nous, le livre, et le pourquoi on a besoin de nos paysans.
On est au salon du Made in France. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, Édouard Bergeon, le Made in France?
Ça devrait être, on devrait tous manger, en fait, français. Quand on parle de local ou de circuit court, déjà, pour moi, c'est français.
Vous connaissez bien le monde paysan. Comment il va, le monde paysan, avec le regard des consommateurs, comme le disait Olivier, qui est parfois schizophrène?
Mais la pandémie, cet événement incroyable, inédit qu'on a tous vécu, les a replacés quand même au centre du jeu, avec leur rôle nourrisseur.
Mais on les a un peu oubliés. Hein.
Oui, alors, vous le savez, même les agriculteurs me le disent, il y a eu cette... pendant le confinement, on était tous à table et on a tous voulu savoir d'où les produits venaient. Et donc les circuits courts, les marchés, ça a augmenté. On a pu se dire que c'était une mode. Mais quand même, il en est resté quelque chose. Alors oui, on oublie vite, mais il y a eu ça quand même. Donc j'ai envie de croire que ça évolue.
Alors les cantines scolaires ont un rôle à jouer aussi dans le rapport agriculteur-consommateur. Vous consacrez un dossier dans le livre à ce sujet. 12 millions d'élèves mangent à la cantine tous les jours. Et effectivement, on a envie de se dire que c'est aux cantines aussi de montrer l'exemple et de cuisiner local. Alors on sait qu'avec la loi Egalim, il est question de mettre du bio et du local plus en force dans nos cantines, mais on n'y est pas encore.
Mais non, mais il faut former aussi les cantinières, les cantiniers. En fait, c'est de l'emploi tout ça. Et on se rend compte qu'avec cette enquête très fouillée d'Emmanuel Ducrot sur les cantines scolaires, le pouvoir est aux politiques et aux parents. C'est-à-dire qu'on peut faire bouger les choses. On peut manger de saison. On peut faire un labo avec. On peut s'entendre pour que nos enfants mangent bien, alors que c'est plutôt l'industrie aujourd'hui qui, dans certains endroits, on les rênes.
Il y a aussi de belles histoires de reconversion dans votre livre. Je pense à Lucie, qui est une ancienne prof de français et qui est à la tête d'un élevage de 15 000 poules pondeuses aujourd'hui.
Elle est géniale, Lucie. 15 000 poules pondeuses, en vrai, faut pas faire peur aux gens, c'est pas énorme, en fait. C'est un bâtiment.
Oui, c'est vrai qu'on peut dire, c'est de l'élevage intensif.
Non, c'est 15 000 poules en plein air et bio.
Et ça prend pas beaucoup de place, une poule.
Non, et ça prend pas beaucoup de place. Vous savez quoi? Elle est passée en bio et aujourd'hui, le marché étant saturé, il va falloir qu'elle repasse au conventionnel. Parce que le bio reste quelque chose de cher. Et aujourd'hui, en tout cas dans l'œuf, et bientôt dans la viande et dans le lait, il y a une saturation du marché. Ce n'est pas un argument de vente, en fait.
Et on le voit avec le lait, où le lait bio est acheté au prix du lait... On a mis du lait bio avec le lait conventionnel. On l'a mélangé ces derniers temps.
Exactement.
Ça veut dire qu'on a raté un petit truc quand même. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à valoriser ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui compte? C'est le prix. Les gens achètent un prix et n'achètent plus une qualité ou malheureusement même pas une démarche bio.
Mais c'est la contradiction. Avec la pandémie, encore... plus de précarité. On le voit, il y a 1 million de plus de personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Donc, c'est pas simple non plus. Est-ce qu'on est prêt à mettre, pour ceux qui le peuvent, un minimum d'argent dans notre assiette, en fait?
Mais pour ceux qui le peuvent, il n'y a pas d'excuse à ne pas le faire.
Non.
Mais je pense que c'est toujours la déconnexion avec l'être humain, en fait, qui joue là-dedans. Quand on sait qu'il y a des humains derrière, ça change tout. Moi, je vois des agriculteurs qui sont heureux de faire leur travail. Et en fait, rien que ça, rien que de voir leur bonheur à faire leur travail, leur épanouissement... Ça donne envie de les aider, ça donne envie d'acheter. Et puis quand on voit l'année 2001 qui a ravagé tant de cultures, qui a fait tant de mal aux agriculteurs, qui se relèvent quand même, qui vont avoir une année financièrement très difficile eux aussi. Il n'y a pas que les Français qui achètent, qui souffrent, il y a ceux qui produisent. Et ben, quand on pense à ça et qu'on fait marcher un peu l'empathie, ça aide.
Eh bien, on continue de parler du Made in France à travers le travail de nos paysans. Pour ça, rien de tel que de faire le marché et de passer à table. Vous êtes d'accord? Eh bien, c'est parti. On y va, à tout de suite. Quel lien nous unit agriculteurs et consommateurs? C'est la question qu'on se pose ce matin en direct du salon du Made in France avec le réalisateur et journaliste Édouard Bergeon qui est venu avec son livre « Cultivons-nous bien manger avec les paysans d'aujourd'hui ». Donc continuez à réagir au 3921 et hashtag Europe 1 sur les réseaux sociaux. Parmi les réactions, tiens, Édouard Bergeon, c'est intéressant, il y a Annick sur le groupe Facebook des Bons Vivants qui nous dit « Oui, le Made in France, c'est bien gentil, mais j'y crois pas ». Effectivement, elle a des doutes, il y a une suspicion sur l'origine des produits parce qu'on sait que parfois une charcuterie corse est faite avec un cochon qui vient de Bretagne et on l'assemble en Corse et on dit que c'est du jambon corse, vous voyez.
Il y a un problème de traçabilité, il y a un problème de faire savoir. Moi, je vois avec les copains qui ont monté leur filière de lait Vallée du Lot, Cantavelot par exemple, ou d'autres, la filière Merci. En fait, il y a la photo de la productrice ou du producteur sur le pack de lait. Et en fait, on a souvent interrogé des consommateurs. Ils n'y croyaient pas. Ils ne croyaient pas que c'était l'agriculteur ou l'agricultrice. On croyait qu'on leur faisait, qu'on leur racontait une fausse histoire. Alors que si, il y a un problème de faire savoir, en fait. C'est pour ça que moi, j'ai créé Cultivons-nous la chaîne et maintenant Cultivons-nous le livre pour faire savoir nos savoir-faire et de l'innovation et de la passion. Il y en a dans l'agriculture.
Ophélie.
Moi, je suis un petit peu gênée, effectivement, par certains commerçants. Je pense notamment aux bouchers. Quand je vais chez les bouchers sur le marché, je vois rarement l'origine de la viande et surtout les conditions d'élevage. Et moi, j'aimerais savoir ça. Et les bouchers considèrent qu'on a à leur faire confiance. Et c'est vrai qu'on leur fait confiance. On leur achète leur viande, elle est bonne. Mais on aimerait quand même avoir quelques informations juste pour être rassurés.
C'est eux de faire ce travail déjà.
Alors, chaque semaine, on commence l'émission en baladant notre micro sur les marchés, justement. Édouard Bergeon, vous prenez le temps d'aller au marché?
Ah oui, j'y vais toutes les semaines. Mais moi, je vais au supermarché, je vais à la ferme, je vais au supermarché.
Vous picorez, voilà.
Je suis comme tous les Français. Il ne faut pas oublier que 80% des Français font leurs courses au supermarché.
Exactement.
Et qu'il faut faire bouger les supermarchés pour qu'ils fassent mieux. ils font encore plein, il y a encore plein de problèmes, il y a un problème de rémunération et de méthode pour certains trucs, mais ils font des efforts, ils n'ont pas le choix. Avec Cultivons-nous, on va justement porter notre caméra ou notre stylo pour aller voir justement ce qu'ils font de bien et de pas bien.
Alors vous le savez, le camarade Jean-Luc Petit-Renaud fait partie de la bande, il a fait son enquête. Les Français, tiens, vont-ils encore au marché? Eh bien en ce moment, le camarade Jean-Luc en visite une dizaine par mois, c'est donc une vraie enquête de terrain. Alors, camarade Jean-Luc Petit-Renaud, tous au marché?
Eh bien oui, écoutez, j'ai mené mon enquête, j'ai mis ma casquette de Sherlock Holmes et c'est un sacré scoop. Il y a de plus en plus d'amateurs sur les marchés, on les croise, il y a de plus en plus de monde. Je trouve d'abord que le marché participe à notre culture générale, mais au même titre que la littérature et autres. On vient prendre la mesure des saisons. On croise ceux qui exposent, les producteurs, ceux qui sont là, ceux qui proposent. Parce qu'on n'a pas besoin forcément d'aller jusqu'à la ferme chercher son fromage de chèvre. On peut le voir comme ça, devant soi, par ces récoltants qui arrivent les mains pleines de cadeaux. C'est l'arche de Noël, le marché. Souvent, ils ont presque déraciné la salade juste avant. Tiens, dernièrement, j'étais sur le marché de Rueil-Malmaison. J'ai croisé un Philippe. Philippe, il est volailler. Et il est volailler de père en fils. Jusqu'à la dernière génération, ils ont élevé eux-mêmes leurs volailles. C'est-à-dire qu'il y avait les petites cocottes qui arrivaient directement sur le marché et on livre ça directement sans intermédiaire. C'est ça le marché. On est loin de l'idée de remplir son caddie à roulettes et croyez-moi, j'aime mon marché parce que ça a un sens, le marché. Ça a
un sens. Et comment ? Bien sûr, Jean-Luc Petit-Renaud, ça a un sens, le marché. C'est pas vous qui direz le contraire, Olivier Pouls.
Oui, mais attention, il faut se garder d'une forme d'angélisme vis-à-vis du marché et considérer que c'est absolument fantastique. Attention, certains marchés sont en train de devenir aujourd'hui des supermarchés à ciel ouvert. C'est-à-dire que vous ne trouvez pas forcément le petit producteur qui vient avec sa salade ou l'éleveur qui vient vendre les produits de sa ferme, mais vous trouvez aussi de plus en plus de grosses institutions. Et moi, sur beaucoup de marchés, je vois des produits complètement désaisonnalisés, des trucs qui viennent de l'autre bout du monde.
Oui, il y a les grossistes, c'est ce qu'on dit souvent ici. Cher. Allons vers les producteurs locaux. Edouard Bergeon, les cuisiniers sont aussi le trait d'union entre les agriculteurs et les consommateurs. C'est pour ça qu'il y a de nombreux exemples dans votre livre, avec des recettes, avec des cuisiniers engagés.
Bien sûr, il fallait pour moi relier le champ à l'assiette. Donc forcément, il y a des agriculteurs qui font bouger leur méthode et puis leur manière de produire. Et les cuisiniers, ça passe par eux en fait. Quand vous faites un reportage sur un grand chef, il vous parle de quoi? Il vous parle de son produit et de qui produit justement ce fameux produit d'exception. Donc il fallait absolument montrer les belles initiatives parce qu'il y en a.
Il y a un reportage photo qui est bien senti, qui est bien vu, c'est le cas de le dire, quand les professionnels se mettent à table.
Les professionnels de la table à table.
Exactement.
Ça, les c'est bouchers bien. De Rungis, le boucher qu'on connaît tous les deux, Olivier, qui est la meilleure viande de veau de l'Île-de-France.
Exactement, ici, Moulineaux. On le salue d'ailleurs.
Pierre qui est amoureux de la viande depuis qu'il a 4 ans. Il était dans les pattes de son père et il est passionné, il sélectionne ses éleveurs. Et puis, il y a un cahier pratique où, à la fin du livre, c'était important, l'un de mes chefs, Daniel Morgan, le chef d'un de mes restaurants, a imaginé 11 recettes avec 11 produits de saison. On raconte des histoires autour de ces produits. Il y a même un QR code où on les retrouve en vidéo.
Oui, il y a un cahier de recettes à la fin du MOOC. C'est par saison, évidemment. Il y a des conserves de courge, tiens, en saumure, avec des pommes, de l'ail et du gingembre qu'on passe à la centrifugeuse. C'est pas mal, ça, votre saumure. Pommes, ail, gingembre, pour conserver des courges en bocaux.
Faire bon, faire simple. Et en fait, c'est ça, en fait. Cultivons-nous, c'est plein d'infos. On vient piocher, on vient picorer, comme vous dites. Et tout ça pour mieux manger avec les paysans.
Et vous diriez quoi pour conclure? Que les agriculteurs et les consommateurs doivent encore apprendre à se connaître?
Oui, absolument. Il faut vraiment se parler, en fait. On connaît mieux son ennemi que quand on l'invite à déjeuner à table. C'est Edgar Faure qui disait ça. Et je pense que c'est la clé, en fait.
Vous pensez que les consommateurs pensent que les agriculteurs sont leurs ennemis? Non, quand même pas, on n'en est pas là.
Ben, certains, oui.
C'est vrai.
On parlait d'agribashing tout à l'heure ou d'actes de malveillance. C'est vraiment, le ressentiment dans les campagnes est vraiment fort. Certains, ce qui est important, c'est de savoir d'où on parle. Vous parlez de ce que vous connaissez, de l'assiette. Certains parlent du béton ou d'ici. Et il faut juste revenir dans les campagnes et savoir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont derrière
oui,
ces produits.
Oui, parce que je crois que beaucoup de Français, notamment urbains, ont oublié ou ne savent vraiment plus ce que c'est que le métier d'agriculteur. Je voudrais quand même rappeler que c'est les gens qui ne prennent pratiquement jamais de congés, qui travaillent 60 ou 70 heures par semaine, samedi et dimanche compris, et qui vouent leur vie à leur exploitation.
C'est l'éducation la clé.
Eh bien, profitons de ce grand week-end pour se promener à la campagne et baladons-nous, cultivons-nous. C'est votre livre « Bien manger avec les paysans » d'aujourd'hui aux éditions des Arènes. Merci Édouard Bergeon.
Merci. Merci.
Et on va recevoir quelqu'un qui aime beaucoup aussi les paysans. Elle les connaît bien. Elle parcourt la France avec sa jolie Micheline, mais pas que. C'est Julie Andrieux qui sera avec nous en direct du Salon du Made in France juste après. Bon samedi matin sur Europe 1.
Europe 1, la table des bons vivants. Laurent ah ben Mariotte.
Voilà, c'est, je peux parler. Merci madame. Merci d'écouter la table des bons vivants. Nous sommes toujours au Salon du Made in France en direct. Et juste avant d'accueillir notre invité Julie Andrieux, voici Étienne Dao, tombé pour la France. Étienne Dao, nous étions 1986, tombés pour la France. Ça y est, c'est l'heure d'accueillir notre invitée. Elle a souvent pris son sac à dos et son cabriolet rouge pour parcourir le monde et les régions de France. C'est une aventurière de la fourchette qui milite pour une cuisine décomplexée. Elle vient de publier « A comme astuce ». un livre très pratique chez Robert Laffont. C'est Julie Andrieux, notre invitée. Bonjour Julie.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Merci d'être là. Merci d'être avec nous en direct du salon du Made in France. Vous la connaissez bien, la France, hein, vous qui parcourez le pays depuis des années. Vous aimez les mettre en avant, nos pépites régionales?
Ben oui, c'est l'objet de cette émission, c'est de parler de la France à travers sa culture gastronomique. Et même sans aller jusqu'à la gastronomie, c'est la cuisine du quotidien, la cuisine bourgeoise. Moi, c'est celle qui me tient à cœur. Et puis celle qui raconte des histoires de régions, des histoires de villages, des histoires de familles aussi.
La cuisine rurale aussi, avec ses belles transmissions.
Oui, absolument. Ben oui, puisqu'on est essentiellement en milieu rural, on rencontre beaucoup de paysans. Je vous ai écouté attentivement avec Édouard Bergeon tout à l'heure. Et moi, j'aime bien ce terme de paysan, d'ailleurs.
On a fait absolument. Une émission, on en parle souvent ici. Oui.
Voilà, c'est un beau mot. Parce que c'est un mot qui est pris un peu de haut par les citadins que nous sommes, et alors qu'il n'est pas du tout péjoratif. Paysan, étymologiquement, c'est vraiment l'homme de la terre.
Et de son pays, hein, le pays en
pays,
sens région.
Voilà, absolument. Et l'homme qui travaille la terre. Et donc, je pense qu'il a vraiment une valeur extrêmement noble. Et c'est pour ça que je l'aime autant qu'agriculteur, bien sûr.
Il y a cultivateur, qu'on n'entend plus, mais qui est un joli nom aussi. On disait cultivateur aussi.
Et en même temps, il y a un appel de la campagne fort depuis les confinements, on le sait. Hein, le fantasme aujourd'hui des habitants des villes, et notamment des Parisiens, c'est de partir à la campagne, c'est de se rapprocher de tout ça. La campagne a pris un peu sa revanche, j'ai l'impression, sur la ville.
C'est vrai, c'est le mien d'ailleurs de partir à la campagne. Hein. C'est mon fantasme aussi. On est toujours obligé de faire des compromis parce qu'il y a les enfants, il y a le mari.
On peut pas. Mais vous y êtes un peu, on en parlera dans votre belle région du
Déjà,
Bordelais.
Déjà, je suis sortie de Paris, ce qui est
c'est
un
ça.
Gros acquis.
Oui, dans les Yvelines. Voilà. Alors, vous venez de sortir A comme astuce, mon abécédaire de la cuisine, aux éditions Robert Laffont. Ouais. Alors, c'est un livre très malin. On reconnaît la Julie Andrieux, comme je le disais, aventurière de la fourchette, parce que vous amuser avec la nourriture, plein d'astuces, pas que des recettes, 900 astuces, 90 recettes, c'est un beau couteau suisse de la cuisine, ça.
C'est exactement ça, c'est tout à fait le terme. L'idée était de me dire, bon, est-ce que, alors ça fait 4 ans que j'ai pas fait de livre, j'en publie un quasiment chaque année, puis il y a un moment où d'abord je suis maman depuis peu de temps, finalement, je suis une maman pas un peu âgée, et j'ai vraiment envie d'en profiter. Donc j'avais levé le pied, et puis on se dit, bon, alors je fais quoi? Je fais encore un livre de recettes, et finalement j'ai préféré, on en parlait, faire la somme de tout ce que j'avais appris à travers ces petites astuces, en me disant, bon ben, évidemment il y a la formule magique de la recette qui en principe, quand elle est bien détaillée, fonctionne, mais au-delà de ça il y a plein de tours de main, un acquis qui s'est fait au fil des années et qui permet aux autres peut-être d'improviser d'abord, d'utiliser ce qu'on a sous la main, parce que c'est quand même essentiel, et puis d'améliorer et de gagner du temps, c'est surtout ça.
C'est ça, bah oui,
parce des raccourcis en cuisine.
C'est une problématique qu'on connaît tous, le temps en cuisine. Vous aimez manger, vous aimez cuisiner, Julie Andrieux, alors quel est votre goût de la semaine?
Ah, mon goût de la semaine, alors je vous dirais, c'est sous forme de devinette, le foule.
La chanson de Gilbert Montagnier.
Qu'est-ce que c'est que le foule?
Ça me dit quelque chose.
Je reviens d'Égypte. J'y étais la semaine dernière, je suis rentrée dimanche et on a mangé du foule tous les jours. Et le foule, c'est le plat national. C'est tout simplement, ce sont des... Alors eux, ils disent des fèves. En fait, ce sont tous les légumes secs qui sont cuisinés avec beaucoup d'oignons, d'épices, de tomates. C'est absolument délicieux, c'est très sain, c'est très bon marché. Et je milite pour qu'on remette les légumes secs au centre de l'assiette.
Sur les légumineuses.
Les légumineuses qui ont tellement une valeur nutritionnelle très intéressante et qui, combinées avec le riz ou avec des féculents, sont une panacée alimentaire. Donc c'est le foule.
Eh ben voilà, on prend le foule. Moi j'aime bien ça, mais c'est vrai en plus que c'est une énergie durable, hein, la protéine végétale, comme les lentilles, les pois cassés, les pois chiches, on en parle régulièrement.
Ils ne nécessitent pas l'énergie d'un réfrigérateur pour être conservés, qui peuvent être conservés pendant plusieurs années. Mais surtout attention, achetez les Français.
Ah oui, voilà.
Très souvent, on se dit, bah oui, tiens, je vais faire un cassoulet. Moi, j'adore le cassoulet. Je vais acheter des haricots, mais vérifions que ce sont de vrais tarbets ou que ce sont de vrais soissons. Ou des lingots du Nord, ils sont excellents.
Ah, mais oui, absolument. Lingots du Nord, belle bête.
Les gens du Sud-Ouest vont être un peu fâchés, mais ils sont quand même très bons. Mais pas autant que les tarbets.
Alors, Ophélie Neyman, vous mettez chaque semaine des vins, des vignerons et des vignobles à l'honneur dans cette émission. Non, c'est Olivier. Parce que, oui, j'ai des spécialistes du vin aujourd'hui, donc je suis perdu. Je ne sais plus qui va parler.
On peut en parler aussi.
Oui, vous pouvez, donc c'est vous. Olivier, pardon, vous mettez chaque semaine des vins, des vignerons et des vignobles à l'honneur. C'est une autre façon de redécouvrir nos régions autrement, un verre à la main. Et vous nous emmenez aujourd'hui dans une région que Julie apprécie beaucoup, c'est l'Entre-deux-Mers, une terre de vin un peu méconnue, somme toute.
Oui, je pense que vous avez quelques accointances avec cette région, vous la connaissez bien. Oui.
J'ai un attachement fort, j'ai une maison effectivement du côté de Rosan, pas très loin de Saint-Émilion, mais c'est à un quart d'heure de Saint-Émilion, mais c'est un autre monde. Ouais. C'est une région très secrète qui regorge de petites abbayes charmantes, très vallonnées, qui n'est évidemment pas aussi peignée que le sont les vignes de Saint-Émilion. Mais il y a de très jolis vins, je crois.
Alors, il y a de très jolis vins. On va en goûter ensemble et on va en parler dans un instant. Alors, c'est vrai que c'est une région un petit peu oubliée aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas, puisque avant la crise du phylloxéra, l'Entre-deux-Mers était une région très prospère et majeure de production viticole dans la région. Alors, l'Entre-deux-Mers, pour la situer, c'est entre Garonne et Dordogne.
Oui, les mers, ce sont les fleuves.
Voilà exactement ce qui lui doit son nom. Pas très loin, vous l'avez dit, de Saint-Émilion. C'est un triangle. Et la particularité, c'est que d'abord, les paysages sont superbes. Et puis, on y trouve les encépagements classiques bordelais, c'est-à-dire le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Cabernet Franc, le Sauvignon Blanc et le Sémillon. Et je vous ai apporté là, pour le coup, deux vins que nous allons déguster. Alors, on a commencé par le
Blanc. Ah bien, allons-y.
Une belle illustration de ce qu'on peut faire dans cette région. Il faut quand même préciser que ce sont des vins qui sont extrêmement abordables. Oui. Les premiers Entre-deux-Mers tournent autour de 4-5 euros la bouteille. On peut même en trouver en dessous, mais on le dit souvent, il faut toujours rémunérer le paysan et le vigneron au prix de son travail. Et donc, acheter des vins à 2 euros la bouteille, ça n'a pas de sens non plus. Donc, vers 4-5 euros, on peut commencer à trouver des vins. Autour d'une
4-5 euros.
Ah oui. Et autour d'une dizaine d'euros, on trouve vraiment des choses remarquables.
Très joli blanc, mais c'est vrai que le rouge, là, vous m'apprenez quelque chose.
Voilà, alors vous allez voir le rouge. Alors, c'est une propriété qui appartient à Pierre Lurton, qu'on salue. Pierre Lurton, c'est un grand monsieur du vin à Bordeaux. Il est directeur général depuis de nombreuses années de deux crus très prestigieux que son Cheval Blanc et Ikem, mais il a une petite propriété familiale installée dans l'Entre-deux-Mers, et les vins, évidemment, en termes de prix, rien à voir avec ceux que je viens de citer. C'est extrêmement bien fait. On se rapproche vraiment de l'idée de ce qu'est un joli Bordeaux classique, élégant, gourmand. Ophélie, vous ne me démentez pas, j'espère.
Et on a deux spécialistes.
J'avale ma gorgée de vin et je réponds.
Olivier Pouls pour la Revue du Vin de France et Ophélie Neyman pour M, le magazine du Monde.
Oui, ce sont vraiment deux très beaux vins, hein, en blanc comme en rouge. On sait que Pierre Lurton travaille bien. Et c'est une vision de Bordeaux que je trouve extrêmement contemporaine, parce qu'on est loin du Bordeaux lourd, du Bordeaux surextrait, du Bordeaux boisé, du Bordeaux qui en fait trop. C'est un Bordeaux qui est tout en modestie, et qu'est-ce que ça lui va bien.
Et on peut le faire vieillir ?
Alors, ce n'est pas des vins qui ont des potentiels de garde de 20 ou 30 ans, mais enfin, si vous l'oubliez dans votre cave 4-5 ans, il n'y a aucun problème. Mais surtout, rappelons-le, c'est une vision des Bordeaux accessibles. Il n'y a pas que des vins hors de prix à Bordeaux.
Eh bien, c'était bien de le dire. Ne bougez pas. On se retrouve dans un instant avec Julie Andrieux qui est avec nous en direct jusqu'à 12h30 et nous aurons un plat du jour cuisiné par Christian Tête-d'Oie, le chef lyonnais. Il est avec nous au fourneau aujourd'hui. Ça va bien, Christian ?
Ça va très bien.
Vous êtes en place, comme on dit ? Eh bien, on se retrouve juste après la pause. À tout de suite.
On m'a refusé trois fois un rillette cornichon.
Normalement, c'est puissant, ça arrache.
Oui.
Et là, ça se boit très très bien.
Europe 1.
Régalez-vous, hein. J'ai amené de la rillette aussi, hein. Il y a de la rillette.
11h30, la table des bons vivants, Laurent Bariotte.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 en direct du salon du Made in France. Si vous avez raté le début, vous l'écouterez en écoutant le podcast sur europe1.fr. Et nous revoilà avec notre invitée Julie Andrieux. Merci d'être avec nous, Julie.
Mais merci de me donner l'opportunité de découvrir le salon, d'ailleurs.
Hein, c'est un joli salon qui a pris de l'ampleur, hein, depuis la dernière fois où nous sommes venus. C'était il y a 2 ans. Vous êtes venu avec votre livre « A comme astuce, mon abécédaire de la cuisine » paru chez Robert Laffont. C'est une boîte à outils, on le disait, un couteau suisse, hein, pour cuisiner malin. Une question, tiens, qui intéresse Olivier Pouls. Comment préparer des côtes de bœuf en profitant de ses amis, en ayant l'esprit tranquille ? C'est une question que vous abordez dans le livre.
Et oui, et puis sans faire trop aussi d'odeurs de cuisine qui envahissent...
Ça ne me gêne pas, ça.
Oui, ça va. Bon, alors tant mieux. Alors moi, la côte de bœuf, je la mets... D'abord, je la couvre d'herbe. On n'est pas obligé, hein, mais je la couvre d'herbe sèche ou fraîche si on en a sous la main. Je mets un petit peu de poivre, je salade plutôt à la fin et je mets ça au four, à four très doux, pendant 40 minutes à 60 degrés. Et ensuite, clac-clac, aller-retour à la poêle et la côte est parfaite. Parce que je l'aime évidemment très saignant.
Ben voilà, c'est une cuisine décomplexée qu'on retrouve dans votre livre. Vous êtes une des premières d'ailleurs à avoir utilisé ce terme, la cuisine décomplexée.
Oui.
Je me souviens de vous, dans un programme court sur TF1, vous aviez fait une recette de saumon au lave-vaisselle.
Saumon au lave-vaisselle, oui, sous vide hein, quand même.
Sous vide, oui, on rassure, absolument.
Mais pas entre les versales.
Hein. si, entre les versales.
Si, mais
on va aller quoi.
emballé, voilà. Oui.
Et on avait aussi fait de mémoire le croque-monsieur au fer à repasser, oui. Entre deux couches de papier aluminium. C'est pas moi qui l'ai inventé, mais ça marche très bien.
Et avec la machine à laver, on peut faire quoi?
Et avec la machine
salade.
À laver, ouais.
Non, mais c'est pas économique, hein, dis donc, hein, ça lance le programme. Ah, comme astuce chez Robert Laffont. Et la preuve que vous êtes une aventurière de la cuisine, c'est un vrai état d'esprit chez vous. Et dans ce livre, on suit la saison, bien sûr. Et je vais à Petit Marron, P comme Petit Marron, puisque c'est un abécédaire. Et je vois que vous le cuisinez au micro-ondes.
Oui, pas seulement, mais en grande partie, oui. Par exemple, quand je manque de temps et que j'ai envie de me faire un repas relativement sain, j'adore les courges. Et le petit marron en particulier, on connaît son arôme de châtaigne, sa densité en goût et son côté sucré. Et alors je le prends bio, je l'achète bio parce que je mange également la peau.
Bien sûr, bah oui.
Mieux, hein, pour plusieurs
c'est comme c'est galère à éplucher, il n'y a pas
voilà,
de problème. Là.
Et puis on en trouve assez facilement. Donc je ne fais que le couper, justement, ne pas le peler. J'enlève les graines, les filaments, je l'emballe dans une couche de film alimentaire. Et je perce de quelques trous, je mets au micro-ondes et je mets 3 minutes. Et on a le potimarron vraiment au naturel. Et je rajoute peut-être une petite huile de noisette, de pistache ou simplement d'olive. Et un peu de fleur de sel et basta.
Eh bien, testez, chers auditeurs, et réagissez sur le groupe Facebook des Bons Vivants. Alors, je vais vous demander d'accueillir maintenant avec nous un chef, pas n'importe lequel, c'est un grand chef lyonnais. Il s'appelle Christian Tête-d'Oie, il est avec nous au salon du Made in France. Bonjour, Christian.
Bonjour.
Merci d'être là. Ça vous parle, le potimarron décomplexé?
J'ai vraiment envie d'essayer,
hein,
pour le coup.
C'est sympa, ça, hein, comme recette.
Absolument.
Alors, qu'est-ce que vous faites au salon du Made in France, Christian Tête-d'Oie?
Alors, moi, je viens pour proposer une nouvelle façon de cuire, justement. Avec une assiette de cuisson. Donc, nous avons créé une société qui s'appelle Eau 5 Sens. Et donc, avec de l'alcool distillé à 96,6, on arrose le produit et on cuit en direct dans l'assiette.
Malin. C'est malin. Et vous êtes venu cuisiner pour nous. On a une plancha qui est juste à côté de nous, une plancha made in France, bien entendu. De la marque Eno, absolument, c'est à côté de Niort. Voilà, on salue les artisans qui sont avec nous, effectivement. On met à l'honneur le Made in France aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez cuisiné pour notre plat du jour? C'est une merveille dans une belle assiette en porcelaine. Et ça sent bon, comme dit Julie.
Alors, j'ai pris l'idée du baba, mais au lieu de faire un baba au rhum, j'ai fait un baba aux champignons. Donc, c'est un baba salé avec donc une crème de cèpe et donc quelques champignons autour. Voilà, une recette tout à fait simple, facile à réaliser, puisque la pâte à baba, c'est aussi simple qu'une pâte à brioche. Il suffit de laisser pousser avec un peu plus de pâte que d'habitude. Et donc, du coup, ça déborde et ça fait le champignon naturellement. Donc, on a un baba qui est en forme de cèpe.
Ouais, c'est un trompe-l'œil, en fait. On a l'impression d'avoir un...
Exactement. Ouais, c'est malin.
Et en fait, c'est de la pâte.
Et comment vous faites cette crème de champignon, Christian Tête-d'Oie?
Oh, bah, toujours pareil. Un petit peu d'échalote, un tout petit peu de blanc de poireau. On fait suer, on met les cèpes dedans, on mouille à la crème. On fait cuire à peine 5 minutes et on mixe direct.
On ne les entend plus, hein, Ophélie Neyman et Olivier Pouls. Verdict, Ophélie?
Je crois que, comme disait tout à fait Julie,
la bouche pleine,
c'est
juste
plus simple et meilleur. Oui. Ça n'a rien de faire compliqué.
C'est vrai, c'est vrai.
Et est-ce que vous êtes allé aux champignons juste avant pour
j'en arrive, regardez. J'en ai ramené une pleine assiette. Je suis allé dans la forêt
oui,
de Versailles, là-bas.
Il y a de la pleurote française. Tiens, faut saluer aussi cette initiative. Vous devez connaître, Julie Andrieux, vous savez. Oui. C'est, à Rungis, ils ont récupéré les mares de café de toutes les brasseries parisiennes et ils font pousser et cultivent des pleurotes sur les mares de café.
Ça peut être divin, les pleurotes. Elles ont souvent mauvaise presse parce qu'on dit que ça n'a pas de goût. Mais alors, par exemple, vous mettez un trait de citron, sel et poivre et vous les mettez au four. C'est exceptionnel parce qu'elles vont croustiller un petit peu. Bon, faut pas oublier l'huile d'olive quand même, ou même une huile neutre pour avoir vraiment le goût de la pleurote. Et ça, c'est très très simple et ça sublime le produit.
Et il y a de la mâche, hein, en plus, ouais. pour ceux qui sont végétariens, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans des bouillons parce que ça peut donner l'illusion de la texture de la viande, par exemple, la pleurote.
On peut rajouter une petite pointe de piment de Bresse. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas, mais c'est une ancienne variété. Qu'on a remis en culture.
Oui. Piment de Bresse.
Piment de Bresse.
Ah ben alors on nous l'a. Ben on dirait que, c'est un cousin voilà. du piment d'Espelette alors un peu.
Il est un peu plus pointu que le oui. piment d'Espelette qui est un peu plus rond.
Et plus court.
Voilà. C'est vrai qu'il a vraiment mais l'aspect alors, du ouais. piment d'Espelette.
Ah, parce oui. qu'il est présenté de la même manière
en corde. Pour la histoire, c'est oui. une ancienne variété qui a été créée effectivement en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais elle a été oubliée. Donc on a été allé chercher des graines à Saint-Pétersbourg. À l'Institut Vavilov. Vavilov était un botaniste qui a fait le tour du monde pour récupérer des espèces et qui a créé la 4e plus grande banque mondiale de semences.
Et vous l'avez utilisé dans cette recette?
Voilà. Et donc, absolument, vous en avez dessus et dedans.
Ça, c'est le piment de Bresse.
Hein. Piment de Bresse.
Excellent.
Donc, on a mis 2 ans pour multiplier les graines et on est en culture depuis 3 ans. Je travaille avec le CRBA, qui est le Centre régional de botanique appliquée à Lyon. Et donc, on recherche justement des anciennes variétés, on les remet en production. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est des variétés qu'on pensait moins nutritives, moins gustatives et moins productives, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et en plus, elles ont un avantage, c'est qu'elles sont parfaitement adaptées au terroir. À une époque, elles ont été créées où on n'arrosait pas et où on ne traitait pas. Donc, elles ont un génome très puissant et je fonde beaucoup d'espoir sur ces variétés anciennes.
Eh ben, vive le piment de Bresse. Votre restaurant se trouve dans le 5e arrondissement de Lyon. Christian Tête-d'Oie, une cuisine étoilée made in France, voire made in Lyon avec ses champignons, hein, vous nous l'avez dit. Et vous avez même été décoré d'une étoile verte au guide Michelin.
Absolument. Hein, cette année. Oui, c'était important pour nous. Ça faisait longtemps qu'on y travaillait. On a vraiment essayé d'être exemplaire sur toute la ligne. On a modifié tout l'éclairage du restaurant. On retraite tous les déchets, même les déchets organiques. Et puis, bien sûr, on fait un sourcing très, très précis avec beaucoup de producteurs. J'ai créé avec des amis une application qui s'appelle Mes producteurs, mes cuisiniers. Et donc, on réunit tous les producteurs et on voit avec eux qu'est-ce qu'on va produire sur l'année qui va venir. On a la réunion le 18 novembre, là, dans quelques jours. Et on va décider donc de quelle variété on va choisir et de combien de volume on va pouvoir mettre en culture pour l'ensemble de mes restaurants.
Alors Julie Andrieux, vous venez nous voir avec votre livre « A comme astuce » paru chez Robert Laffont. 900 astuces, 90 recettes.
Tous azimuts.
Hein, tous azimuts.
Et issus de tous les pays du monde aussi, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, pas seulement dans la région française. Et Dieu sait que j'ai récolté beaucoup d'astuces auprès des grands-mères, mais aussi des mamas italiennes ou des mamas libanaises. Et donc voilà, par exemple, moi je jette jamais mes croûtes de parmesan. J'adore le parmesan, je fais beaucoup de pâtes et de risotto, mais du coup on se retrouve avec de la croûte et a priori on la jette, alors que j'ai vu les mamas italiennes l'utiliser dans les sauces tomates ou même la bolognaise. Vous laissez infuser la croûte qui va parfumer, qui va donner un arôme de parmesan qui sera assez différent d'ailleurs de celui du fromage, un arôme un peu comme ça, un peu acidulé, et au moins ben voilà, vous avez utilisé la totalité du fromage.
Et pareil, hein, comme moi, vous n'aimez pas jeter le pain, donc on le transforme en chapelure, le pain.
Alors, en chapelure, ça, je vous ai rien appris.
Non, mais bon, faut arrêter d'acheter des chapelures industrielles, parce qu'il y a des additifs en plus.
Surtout, c'est tellement meilleur.
Bien sûr.
C'est très facile à faire. Mais aussi en pudding. On l'arrose de lait. Moi, j'ai donné un cours de cuisine dans l'école des enfants où, pour leur montrer que, bah, finalement, avec une vieille banane toute noire, toute pourrie, un peu de sucre, de beurre, de lait et du vieux pain, on pouvait faire un magnifique dessert.
Et du pain perdu. Mangeons du pain perdu.
Et du pain perdu, évidemment. C'est délicieux, mais il faut le faire la veille, c'est meilleur.
Christian Tête-d'Oie.
Oui, non, je confirme vraiment, en cuisine, on ne doit rien jeter, quoi. Il y a tellement d'astuces pour pouvoir... Donc bravo pour cet ouvrage, parce que les gens ont besoin qu'on les guide un petit peu, qu'on leur montre le chemin, parce que les gens ont des mauvais gestes, mais aussi parce qu'ils ne savent pas les bons gestes.
Comment vous avez appris la cuisine? Ça revient d'où, cet amour de la cuisine chez vous? Vous êtes meilleur ouvrier de France, Christian Tête-d'Oie.
Oui, moi, je suis tombé dedans tout petit, puisque mes parents étaient maraîchers, mais à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de matériel, donc beaucoup de main-d'œuvre, et donc... La maison, c'était déjà un restaurant, puisqu'il y avait déjà une famille nombreuse. On était 7 enfants, les parents, les grands-parents, plus tous les ouvriers maraîchers. Donc, du coup, on était toujours 20-25 à table. Donc, j'ai grandi un petit peu dans un restaurant à la ferme.
Ah, voilà, ça, c'est bien. Voilà, les restaurants à la ferme, les fermes auberges qui reviennent aussi. Hein. Vous aimez sillonner le pays aussi à la découverte de nouvelles fermes auberges et ces jeunes chefs qui s'installent un peu partout en France, dans des petits villages comme ça, et qui refont des restaurants, même bistronomiques parfois.
C'est vrai que parfois, dans une certaine catégorie de restaurants ou d'additions, c'est peut-être là qu'on mange le mieux en France.
Vous retrouverez la recette de Christian Tête-d'Oie sur europe1.fr, chers auditeurs. Merci.
Recette qui s'accorde admirablement bien aux deux vins qu'on a, oui, là. Aussi c'est... bien le blanc que le rouge, d'ailleurs.
Ben, une
recette
félicite.
À deux portes d'entrée.
Je vous félicite, Olivier Pouls. Très beaux accords, mes vins, effectivement. Le Made in France, eh bien, tiens, vous me faites la transition. Ça passe aussi par la boisson. Ophélie Neyman nous a préparé une dégustation de bière. Mais attention, pas comme les autres. Bon week-end sur Europe 1 et bonne cuisine, hein, si vous êtes en train de la faire.
11h30 sur Europe 1, Laurent Mariotte vous accueille à la table des bons vivants.
Bon samedi midi à table avec nous. Bonne cuisine, si vous êtes en train de la faire. Nous sommes en direct du salon du Made in France avec Julie Andrieux et son beau livre « A comme astuce, mon abécédaire de la cuisine » paru chez Robert Laffont, on le disait. Plus de 900 astuces, 90 recettes.
Et beaucoup de recettes, voilà, assorties de quelques recettes, parce qu'il faut bien illustrer toutes ces astuces. Mais l'idée, c'est quand même vraiment de permettre aux gens de se lancer, même quasiment d'improviser. En connaissant ces raccourcis, ces tours de main qui font que la cuisine n'est plus une corvée.
Exactement, et j'aime bien parce qu'il y a des recettes qui sont racontées sur le ton de la conversation. Donc oui. C'est amusant parce qu'elles sont courtes en plus quand on les lit.
Oui, et puis derrière chaque recette, il y a une histoire, c'est ce que je vous disais. Donc moi, j'aime bien raconter ces histoires-là parce que finalement, bon, moi, je ne suis pas tant... porter sur une cuisine académique, même si je maîtrise quand même quelques règles, heureusement, sinon ça ne permettrait pas de donner des recettes. Mais ce qui m'amuse, c'est, voilà, c'est de raconter des choses à travers les recettes, de vous emmener, de voyager, et même de voyager en France.
Vous avez deux enfants, vous prenez le temps de cuisiner avec eux ?
Je cuisine beaucoup avec eux, oui. Ils m'ont ramené à la cuisine. Il y a un moment où je saturais un petit peu. Et là, j'ai un plaisir fou à faire des choses assez simples. Mais là, on évolue. On est en train de faire des macarons. Voilà, ça devient un peu technique. Ils adorent ça, mais parce que, avant tout, c'est un moment partagé avec maman, quoi.
Alors, vous nous parlez de sucré, de macarons. On a le French biscuit qui est avec nous, qui est un biscuit présent ici sur le Made in France.
Un biscuit versaillais. Alors, moi, j'habite Versailles depuis 3 ans et j'ai découvert ces biscuits qui sont fabriqués avec la farine des moulins de Versailles, qui est le dernier moulin d'Île-de-France encore artisanal et familial.
Oh, il y a du beurre, ça sent bon le beurre.
Il y a du beurre, du bon beurre d'Isigny, monsieur.
J'adore.
Et surtout, ce sont des biscuits à message. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut noter les messages qu'on veut. On peut demander sa femme en mariage.
I love France, moi, j'ai.
Voilà.
Je pensais qu'il y avait un message plus personnel pour Laurent, non, même pas. Non. À la French touch.
Olivier Pouls, vous qui êtes un viandard, un carnivore, nous allons faire une scène d'action aujourd'hui en direct. Vous allez croquer dans ce biscuit et vous allez nous dire ce que vous en pensez. Parce qu'il est... Dans le café, c'est délicieux, ça aussi.
Ah oui, moi, j'aime bien. Dans le café, il y a les carrés de café de Vincent Fergnaud aussi qui sont
pas trempés dans le café. Moi, j'aime pas le biscuit quand il est imbibé de café. Il
vient dans le vin blanc.
J'aime bien, moi, le récupérer justement avant qu'il tombe complètement.
Non, c'est vrai qu'ils sont...
Ah oui. Voilà, puis vous le disiez, le choix des matières premières, quoi.
Évidemment, et puis là, il y a le petit twist du message aussi. Mais,
très croustillant.
Et oui, les Françaises, puisque ce sont deux Françaises, en ont sous le pied.
On parle du Made in France, tiens, Julie Andrieux. Jean-Pierre Coff a beaucoup compté dans votre vie.
Oui, c'est vrai.
Que dirait-il de notre façon de manger aujourd'hui, ce sans gluten, ce sans lactose, les courants vegan, le succès des vins nature?
C'est la merde,
est-ce
non.
Qu'il penserait? Non, je pense
non,
pas.
Parce
moi,
qu'il était très en prise avec l'actualité, finalement, et avec une certaine forme de cuisine dans son temps contemporaine. Jean-Pierre, c'était un homme très ouvert, très drôle.
Absolument.
Qui cachait bien son jeu, qui jouait un peu un rôle. Hein,
qui jouait le ronchon,
ouais,
oui.
Il jouait le gros ours, mais il avait une culture infinie, une culture culinaire évidemment infinie. Et je pense que non, il prendrait tout ça en compte. Maintenant, c'est vrai que Jean-Pierre, il aimait, comme nous... la bonne bouffe, quoi. Voilà, une cuisine franche.
Simple.
Qui ne se tortille pas les
identifiable.
Esprits. Oui, et qui déculpabilise, encore une fois. Il faut arrêter de mettre nos névroses dans la bouffe, quoi.
C'est vrai, ça, c'est absolument. Pas de dictature dans le goût. Et justement, votre livre, il va dans ce sens. A comme astuce, paru chez Robert Laffont. Est-ce que vous aimez la bière, Julie Andrieux?
J'ai honte, mais non, j'ai
vous
pas
avez le droit. Bière. Hein,
mais je sais qu'il y en a de sublimes.
Vous pouvez cuisiner avec la bière.
Bon, alors, je cuisine. Voilà. Oui, je cuisine. Je fais des carbonades, par exemple, avec de la vergeoise, de la bière et au bœuf en général.
Et dans les crêpes, un petit peu
mais,
de bière.
Et dans les crêpes, non, j'en mets pas, mais parce que moi j'ai eu...
Vous êtes plutôt kirsch.
Je serais plutôt eau de fleur d'oranger, c'est mon côté
c'est joli.
Attiré par le Moyen-Orient.
Ah, j'adore ça, l'eau de fleur d'oranger, elle a des vertus, je trouve, apaisantes.
Ah, mais alors, vous savez que tous les soirs, je me fais un café blanc. Vous connaissez le café blanc?
Ah oui, redites ce que c'est.
Alors, au Liban, tout le monde boit du café blanc, y compris les bébés. C'est tout simplement de l'eau chaude dans laquelle vous allez glisser quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger. Je vous recommande la marque Maïmouné au Liban, que j'ai découverte là-bas, qui est exceptionnelle. Chaque bouton est récolté par des femmes en blouse blanche à l'aube. Enfin, c'est merveilleux. Et vous sucrez ou pas, mais c'est tout. C'est de l'eau et de la fleur d'oranger. Ça vous apaise, ça fait digérer. Et bon, après, il y a le café noir, évidemment. Ça, je ne vais pas rien vous apprendre.
Oui, mais c'est bien ça.
Café blanc est à découvrir.
Café blanc, je prends.
Moi, je vais prendre une bière.
Eh bien, alors, Ophélie, tiens, justement, vous aviez envie de parler de bière sans laisser de côté une façon de faire viticole. Hein.
Et oui. Et c'est ce salon qui m'a soufflé l'inspiration. Parce qu'autour de nous, nous voyons beaucoup d'artisans qui se réclament du bon goût d'autrefois, de la méthode traditionnelle, du tour de main à l'ancienne. Et en matière de bière, il y a bien une pratique qui a été complètement oubliée avant de refaire surface, c'est la bière en barrique.
Alors c'est vrai qu'autrefois, il n'y avait pas de cuves en inox qui sont désormais incontournables pour brasser la bière.
Les cuves en inox, elles sont plus faciles à nettoyer. Elles sont surtout parfaitement neutres en termes d'arômes et de bactéries. Ce qui n'est pas le cas du fût de chêne. Alors on connaît vanille, praliné, café, notes toastées, les arômes boisés qui offrent un terrain de jeu formidable. Mais attention, il y a des différences d'un fût à l'autre et donc d'un brassin à l'autre. C'est pour ça que cette méthode, elle reste artisanale. Parce que les industriels de la bière ne peuvent pas se permettre une production aussi aléatoire.
Alors concrètement, ça se passe comment? C'est fût neuf, fût âgé, fermentation, vieillissement?
Bien, tout est possible. Pour certains brasseurs qui ont la volonté d'utiliser les méthodes ancestrales, les bières sont brassées à la main et fermentent en fût. C'est le cas de la Brasserie des Anges, hein, qui est présente sur ce salon. on cherche moins le goût de la barrique que la patine qu'elle apporte. Mais d'autres vont vouloir profiter de fûts qui ont déjà servi au vieillissement de spiritueux pour y faire vieillir leur bière et ainsi leur faire prendre les arômes qui ont été laissés par les précédents alcools. Alors c'est le cas de la cuvée de la brasserie Saint-Nabor qui utilise des barriques de whisky, d'eau de vin de Mirabel ou de rhum. Oh. Ou de la brasserie de Montmorillon que vous goûtez là, que j'aime beaucoup parce qu'elle fait vieillir ses bières dans des fûts de cognac, d'armagnac, de pinot des Charentes, c'est celle que vous voyez ici qui est légèrement ambrée, et même des bières qui ont vieilli dans des fûts qui appartenaient à des vins de Saint-Nicolas de Bourgueil, de l'appellation Saint-Nicolas de Bourgueil. C'est la bière un peu rosée, légèrement infusée de framboise aussi.
D'accord, la pigmentation n'est pas due au résidu de raisin, mais à la
framboise. Non, mais vous noterez quand même ce petit mélange de parfums de vin rouge et de framboise.
C'est aussi une bonne manière de réutiliser les fûts, en fait.
Oui, c'est ça. Et tant qu'on est dans la récup, il y a la brasserie La Miche qui récupère aussi des baguettes de pain invendues pour faire de la bière qui est également présente sur le salon.
Eh bien, merci beaucoup, Ophélie. Et je le redis, on vous lit dans le journal Le Monde. Oui. Voilà. Et pas que dans le magazine M, dans le journal Le Monde. C'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants, chère Julie. Vous êtes prête ?
Chiche.
Ça va chauffer. Quel est le goût de votre enfance, Julie Andrieux ?
Ah, le goût de l'enfance, ça aussi entre les pâtes que ma maman me faisait régulièrement parce qu'on a toujours aimé ça, elle et moi. Elle m'a élevée seule, donc on était famille monoparentale. J'ai pas de frères et sœurs. Enfin, à l'époque, j'en avais pas, disons. Et c'était des pâtes très, 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 très longuement cuites. Une espèce de magma.
Un peu collante.
Avec de la sauce industrielle.
Oh.
Parce que ma maman était une grande cuisinière. C'était une maman exceptionnelle, mais c'était pas vraiment son truc, la cuisine.
Et une grande comédienne, Nicole Courcelle.
Oui, voilà. Mais voilà. La cuisine ne faisait pas partie de notre vie, si ce n'est que le repas était toujours une fête, ce qui est déjà beaucoup.
Ça compte.
Voilà, c'était très, là aussi, décomplexé, parce qu'on pouvait manger sur une table roulante, on mangeait un peu comme on voulait, donc les copines adoraient venir à la maison. On mangeait beaucoup de plats industriels, c'était formidable. Et c'est, je pense, ce qui m'a permis, c'est pour ça que je lui dois beaucoup, aujourd'hui, de prendre la valeur d'une cuisine faite de bons produits, du plaisir d'aller au marché, se construire une culture alimentaire, par réaction peut-être, parce qu'elle m'a transmis énormément d'autres choses primordiales, mais je dois dire que l'amour de la cuisine, je ne le lui dois pas.
Quel est votre plus beau repas ?
Mon plus beau repas, le souvenir d'un repas aux côtés de Claude Lebet, à qui je dédie ce livre d'ailleurs.
Absolument, critique gastronomique,
le fondateur du Guide Lebet, qui m'a mis le pied à l'étrier, qui m'a permis d'écrire et de devenir au départ critique gastronomique. Et Claude nous avait emmené Michel Guérard, qui est un de ses amis et qui est devenu un ami, et moi, à Rosas, chez Ferran Adrià. On a dîné dans les cuisines et Ferran Adrià était ému aux larmes de rencontrer non pas moi, mais Michel Guérard.
Joli.
Parce qu'il s'était, nous a-t-il dit, inspiré de tous ses livres et qu'il avait appris la cuisine dans les livres de Michel. Et ça, c'était un très, très beau moment.
Et votre pire repas ?
Mon pire repas ? Mon pire repas, peut-être en Écosse, bien que j'adore la cuisine écossaise traditionnelle, il va sans dire, mais depuis la révolution industrielle, on mange un peu n'importe comment là-bas. On mange beaucoup de gras, beaucoup de frites, beaucoup de choses frites. Et là, on nous a servi dans une friterie, je ne sais pas exactement quelle est la traduction.
On garde en Belgique le monopole de la friterie.
Oui, c'est sûr.
Vous avez un Belge à côté de vous, attention.
La fête de frire, alors, voilà, où ils font tout frire, y compris la pizza. Alors, ça, c'était une pizza en beignet, suivie d'une barre de Mars frites.
Oh la vache.
Je vous le recommande.
Ça fait mal, ça.
Voilà, pour le cholestérol, c'était formidable.
Et le mot de la fin, tiens, F-A-I-M.
Le mot de la fin, peut-être mon mot favori, qui est sans doute le vôtre aussi, nourrir.
Oui, nourrir.
Nourrir, quel beau mot, tellement simple et qui, je trouve, donne toute sa noblesse à nos métiers, car à travers l'alimentation, on nourrit tellement d'autres choses.
Nourrir avec des astuces, c'est ce que vous proposez avec ce livre. Merci d'être venue, Julie Andrieux.
Merci à vous.
A comme astuce, mon abécédaire de la cuisine, chez Robert Laffont. C'est le couteau suisse de la cuisine, on le disait, hein, plus de 900 astuces, 90 recettes. Noël approche, c'est une belle idée de cadeau pour les fêtes. Et il y a vos tabliers, vous faites des tabliers aussi, Julie.
Oui, qu'on vend sur notre site internet, des tabliers qui sont en grande partie issus de tissus français, je dirais à 80% pour être tout à fait honnête, fabriqués au Portugal. Non, on n'est pas made in France, mais il y a un moment, il y a une question de coût aussi, et là pour le coup,
bien
nous,
sûr,
on a des tabliers qui
et
sont
c'est l'Europe,
vendus,
ça reste en Europe.
Voilà, qui sont vendus à prix, je trouve, très abordable. Et oui, j'avais envie de chausser des tabliers qui me plaisaient, donc je me suis dit, faisons-les et partageons-les.
Il y a plein de tabliers made in France ici aussi au salon. Merci Julie Andrieux et bon week-end, chers auditeurs. Merci de nous suivre. Réagissez encore sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. Merci au public, absolument, ouais, qui est nombreux devant nous en direct du Salon du Made in France. Merci à ma fine équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Claire Dutronc, Lucie Escourou, Julien Amat, Marion Sauveur, j'oublie personne, nos amis de la technique, Fabien et Olivier. Merci Christian Tête-Doigt. Salut Olivier Pouls.
Bon salon.
Salut Ophélie Neyman.
Oui, j'allais me promener dans les
allées. On va se promener et rendez-vous demain à 11h pour la table du dimanche avec Zaz et nous aurons la visite de Jean-Louis Etienne, l'explorateur d'océan. Dans un instant, c'est Europe Midi sur Europe 1 avec Thierry Dagiral. Bon week-end les amis.